Bonjour, l'aide au développement était au cœur des débats ce matin sous la coupole. Nous verrons avec Christian Favre que le Conseil des États a soutenu l'augmentation de 640 millions de francs ces deux prochaines années pour atteindre 0,5% du produit intérieur brut à l'horizon 2015. Et Pascal Jeanneret nous dira que le National a dans le même temps renoncé à couper dans les fonds alloués à la DDC. Toujours au menu de ce journal, le procès de 5 policiers vaudois à Nyon. Le principal accusé est soupçonné d'avoir utilisé un spray au poivre contre un mineur et ses collègues d'avoir tenté de le couvrir en rédigeant de faux témoignages. Nous rejoindrons Michel Eman sur place et nous irons en Valais suivre le compte-rendu d'une autre audience consacrée à des règlements de compte entre bandes rivales. Conférence ce soir à Genève sur la transmission d'entreprises. La crise économique a passablement compliqué les choses pour les patrons qui souhaitent assurer la pérennité de leur société. Comment se préparer à céder son activité? Quels sont les écueils à éviter? Autant de questions que nous poserons à notre invité Giovanni Giunta, secrétaire général de l'association Relève PME, à la fin de ce journal. L'après-midi s'annonce bien ensoleillé sur nos régions, mais des nuages pourraient donner quelques averses de neige sur les reliefs. Le mercure affichera 2 à 3 degrés en pleine au moins froid de la journée, moins 11 à 2000 mètres. Pas de grands changements pour demain, encore quelques flocons en montagne et de belles éclaircies en pleine. Le week-end s'annonce ensoleillé, sec et frais, nous dira Pascal Bénard. Le Conseil des États est donc favorable à une augmentation de l'aide au développement. Il a largement accepté ce matin de débloquer 640 millions de francs pour les années 2011-2012. Une contribution qui permettrait à la Suisse de tenir ses engagements internationaux et de consacrer 0,5% de son produit intérieur brut à la lutte contre la pauvreté d'ici 2015, contre 0,45% actuellement. Bref, les sénateurs veulent une Suisse engagée sur le plan humanitaire. Christian Favre.
Oui, on a assisté à un débat sur la défense d'une certaine image de la Suisse à l'étranger. L'aide au développement, ce sont les projets financés par la Suisse, mais c'est aussi un élément central de politique extérieure. Pour une majorité de sénateurs, en s'engageant sur le plan humanitaire, la Confédération développe son réseau international, elle renforce sa crédibilité et tient ses promesses. Un engagement d'autant plus essentiel que la Suisse est un pays riche, de surcroît en très bonne santé financière. Écoutez le socialiste neuchâtelois Didier Berbera.
À mes yeux, 50 centimes qu'on utilise sur 100 francs gagnés, c'est pas beaucoup, c'est d'autant plus qu'il est fort possible que nous assistions, comme d'habitude, à de bonnes surprises en fin d'année, ce qui fait que l'investissement que nous souhaitons pouvoir consacrer à l'aide au développement est un investissement vital et est possible.
Un argument qui n'a pas convaincu tout le monde. Pour l'UDC argovien Maximilien Reinmann, il faut surtout favoriser l'implantation dans les pays pauvres de nos entreprises privées, à l'image de Nestlé en Syrie. Oui, mais écoutez la réplique du PLR tessinois Dick Marty.
À Damas, Nestlé a investi parce qu'il y a un réseau routier, il y a de l'eau. Et donc, ce sont pour ces conditions qu'il faut tout d'abord s'engager. Cessons de parler de charité et même de aide. Finalement, ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris et surtout du nôtre, parce que c'est un pays comme le nôtre qui a le plus à profiter d'un monde en paix et d'un monde prospère.
Doit-on pour autant augmenter encore notre contribution, atteindre ce fameux 0,5% du PIB pour laquelle la Suisse s'est engagée? Selon le PDC fribourgeois Urs Schwaller, c'est la rigueur financière qui doit arbitrer nos engagements humanitaires.
Si nous n'avions pas argumenté sur le plan de la politique financière ces dernières années, nous ne serions aujourd'hui même pas en mesure d'évoquer une hausse de ce budget. Je ne veux pas remettre en question notre aide, mais je discute son augmentation.
Mais au final, c'est la voie de l'ouverture qui s'est imposée devant une Micheline Calmiré soulagée d'avoir réussi à convaincre qu'une aide au développement efficace et visible va renforcer la Suisse sur la scène internationale.
Et justement, l'aide au développement reste au cœur du débat sur le budget 2011 au Conseil national. Les députés avaient jusqu'à présent refusé de voter l'intégralité de l'enveloppe prévue par le Conseil fédéral pour coller à cet objectif de 0,5%. Le national a finalement fait volte-face ce matin, Pascal Jeanneret.
Oui, bonne nouvelle pour Micheline Calmiré dans l'autre champ. Ce matin, car c'est un large ralliement à cette enveloppe globale de 840 millions proposée par le Conseil fédéral auquel on assiste. La semaine passée, vous l'avez dit, le National avait coupé 134 millions au nom de la rigueur budgétaire. C'était à trois voix près. Mais face à la persistance du Conseil des États de maintenir cette enveloppe intacte, le National avait imaginé ce matin un compromis, ne couper que la moitié de ces 134 millions. Eh bien, le plénum a décidé tout à l'heure de ne plus couper que 17 millions. Contre l'avis de l'UDC et de la moitié du PLR, le ralliement est presque total et cela veut dire en fait que le budget se trouve mis en conformité avec l'exigence d'atteindre le fameux équivalent 0,5% du PIB consacré à l'aide au développement. L'appel à la cohérence lancé par la ministre des Finances, Evelyne Widmer-Schlumpf, fait donc entendu et il n'est pas impossible que l'ultime navette restaure aussi ces 17 derniers millions. Le National, en revanche, désobéit sur le soutien à l'économie laitière. Il maintient face au Conseil des États plus mesuré son exigence d'ajouter 45 millions au budget initial en faveur de la transformation du lait en fromage. Et puis dans la catégorie enveloppe, toujours un mot encore du programme d'armement 2010. Là aussi, l'approche de Noël semble coiffer les parlementaires du bonnet rouge de la générosité. Pour le plus grand plaisir d'Ouli Maurer et des quelques 1000 camions et autres véhicules spéciaux qu'il a commandés, le National est désormais prêt à lui accorder un bond de 617 millions, 20 de plus que la semaine passée, alors que les États s'en tiennent un total de 529, mais là, pas sûr que les sénateurs ne chargent autant leur hôte. Réponse la semaine prochaine sur ce programme d'armement et sur le budget 2011, dont le déficit devrait dépasser les 600 millions.
Ras-le-bol des règlements compliqués, des lois et des formulaires. Le Parti libéral radical a lancé ce matin à Berne une initiative populaire contre la bureaucratie qui coûterait 50 milliards de francs par an aux entreprises. Vincent Bourquin, vous êtes en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne. Que propose finalement le PLR pour lutter contre l'accumulation de paperasses administratives ?
Alors cette initiative intitulée tout simplement « Stop à la bureaucratie » veut inscrire dans la Constitution fédérale que les lois doivent être efficaces et non bureaucratiques. Un autre article demande que lors de l'élaboration de toute nouvelle loi ou règlement, l'impact sur les petites et moyennes entreprises soit mesuré. Parallèlement, les libéraux radicaux interviennent aussi au Parlement fédéral et dans les cantons pour une meilleure coordination de l'administration et le développement de l'e-gouvernement. Toutes ces propositions devraient permettre une réduction des coûts de 20%. Avec cette initiative, le PLR entend vraiment se profilé comme le parti de l'économie et des libertés. Et ce n'est bien sûr pas un hasard si ce texte est lancé à une année des élections fédérales. Les libéraux radicaux veulent mobiliser leurs militants d'une manière plutôt inhabituelle pour eux puisqu'ils n'utilisent que très rarement l'instrument de l'initiative populaire. Et la campagne a démarré à la mi-octobre. 14 000 signatures ont déjà été récoltées.
Et nous sommes en ligne avec Pierre Weiss. Bonjour.
Bonjour aussi.
Vice-président du Parti libéral radical, c'est vraiment possible de diminuer la bureaucratie ou c'est juste finalement une déclaration d'intention ?
Non, c'est tout à fait possible de la diminuer et c'est encore plus possible de l'augmenter. C'est possible de la diminuer, je vous donne un exemple. Le Parlement, la semaine prochaine, fédéral, va devoir voter sur la TVA et notamment sur le taux unique. La TVA, c'est actuellement une législation de 2344 pages. Elle doit pouvoir réduire le nombre de pages et les complications pour les chefs d'entreprise si vous passez, par exemple, au taux unique. Voilà un exemple pour les entreprises. Je peux vous en donner également pour les citoyens.
Alors, votre formation lance cette initiative, alors qu'on va dire c'est justement quand même le monde politique qui veut toujours des nouvelles lois, des nouveaux règlements, et qui ça se traduit forcément et inévitablement par de la paperasse quand même supplémentaire.
Alors, les nouvelles lois peuvent se traduire par plus de paperasse, elles peuvent se traduire par plus ou moins plus de paperasse, et puis l'on peut également imaginer qu'il y ait des lois qui aient une date limite. C'est aussi une voie dans laquelle nous comptons nous engager pour qu'une loi soit automatiquement abrogée si elle n'a pas démontré ses effets positifs.
Alors cette initiative, on l'a dit, elle est avant tout destinée aux entreprises. Pierre Weiss, les citoyens sont aussi concernés ?
Les citoyens sont tout à fait concernés. Par exemple, dans le droit de la construction, vous avez 120 000 articles dans les 26 législations cantonales. Ça complique les constructions, ça renchérit quand vous voulez construire une maison pour le propriétaire comme pour le locataire. Il y a de quoi faire plus simple. Et puis, je vous donne un exemple. Dans le canton de Genève, il y a 27 réglementations qui concernent l'ouverture et l'exploitation d'un café-restaurant. Quand vous allez dans un café, vous asseoir à l'intérieur ou à l'extérieur sur une terrasse, eh bien, celui qui vous sert, le patron qui vous sert, il a dû passer par 27 offices, par 27 réglementations différentes. Ce n'est tout simplement pas acceptable.
On pourrait vous reprocher de faire du populisme, finalement, tout le monde est forcément favorable à l'idée d'alléger la bureaucratie, non ?
Ce n'est pas du populisme. Le populisme, c'est une démarche populiste. C'est une démarche politique qui a pour but, en réalité, de délégitimer les institutions. Pour nous, il s'agit de faire d'avoir une démarche populaire qui concerne tout le monde. Et d'ailleurs, ça a été très bien compris. Il y a déjà eu plusieurs initiatives populaires qui ont été lancées en Suisse alémanique, dans les cantons, par le PLR, qui ont toutes rencontré du succès et qui visent précisément à simplifier la vie de monsieur et madame tout le monde.
Merci beaucoup Pierre Weiss d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal. Voilà, il est parti vice-président du Parti libéral radical, donc qui répondait à l'invitation de Vincent Bourquin. Ouverture ce matin à Nyon du procès de 5 policiers vaudois. Le principal accusé est soupçonné d'avoir aspergé un jeune érythréen de 16 ans de spray au poivre lors de son arrestation. Et ses 4 collègues auraient couvert ses agissements. Un procès que vous suivez pour nous, Michel Eman.
C'est en effet la question centrale. Y a-t-il eu bavure policière et ensuite faux témoignage du côté des policiers pour se couvrir ? La vérité finira-t-elle par être connue ? Eh bien, la matinée n'a pas permis de beaucoup avancer. Les faits remontent au nouvel an 2006 et les mémoires des uns et des autres sont parfois défaillantes. Ils m'ont gazé pour se venger d'avoir été insulté par moi, déclarant résumé le jeune homme qui attaque la police. Élégant, chemise gris souris et pantalon noir, il garde sa ligne avec calme. Du côté des forces de l'ordre, on est solidaire. Il n'a pas été gazé du tout. Toute la matinée, le président du tribunal a tenté de reconstituer les faits. Avec humour, mais parfois un certain agacement. Il soupire « Oui, oui, ça paraît logique » ou encore « Bien, bien ». Deux témoins sont venus dire qu'ils ont vu et entendu leur pote, âgé de 16 ans à l'époque, avoir les yeux rouges. Un pote qui leur expliquait qu'il avait bien reçu du spray. Les points d'interrogation demeurent cependant nombreux. Un seul exemple, les policiers ne se souviennent même pas quel fourgon de police a été utilisé pour embarquer le jeune homme. Cet après-midi, on aura droit à une démonstration d'utilisation d'un spray au poivre à l'extérieur. Un mot encore pour dire que les échanges sont parfois très vifs entre les avocats des policiers et l'avocate du jeune homme.
Michel Eman en direct de Nyon. Autre canton, autre procès en Valais. Le tribunal de Martigny est revenu ce matin sur l'affaire Rachel, du nom de cette jeune femme agressée en 2007 à Monté. La justice s'est penchée sur les événements qui sont probablement à l'origine de cette agression, Claude Defago.
Rappelons au préalable que l'affaire dite Rachel a été jugée. Aujourd'hui, c'est l'ex-ami de Rachel qui est cité devant le tribunal. Fin décembre 2006, avant l'agression de Rachel, il a tiré avec un pistolet à plomb sur un jeune avec lequel il avait eu différends et altercations. Bilan, le jeune homme a perdu un œil. Le tireur regrette aujourd'hui les faits et leurs conséquences. Pour le tribunal, il s'agit de démêler les chevaux. L'ex-ami de Rachel, ancien skieur professionnel, affirme s'être senti menacé et avoir voulu se défendre. Sa victime prétend avoir simplement voulu discuter pour calmer les tensions. À l'évidence, démêler les chevaux ne sera pas simple. Les faits sont admis, leur analyse et leur interprétation diffèrent. Questions et réponses portent surtout sur les détails, couleur des habits, emplacement des personnes, etc. Pour le prévenu, le tireur, la question sera de savoir s'il est coupable de lésions corporelles graves ou de tentatives de meurtre. Sont également cités, mais pour des faits moins graves, faux témoignages et calomnies, Rachel elle-même et sa maman.
Claude Defago du bureau Valaisan de la radio suisse romande.
Le 12-30, David Racana.
Cette saison, les apéros de fin d'année se multiplient dans les entreprises, clubs ou associations. L'occasion pour Addiction Info Suisse de rappeler qu'on peut aussi faire la fête sans boire d'alcool. Bonjour Corinne Kibora.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole d'Addiction Info Suisse. Vous avez une solution miracle pour éviter finalement la gueule de bois, siroter des boissons non alcoolisées.
Une recette miracle, je ne sais pas. Ce que nous voulons rappeler aussi, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, par exemple, pour accélérer l'élimination de l'alcool. Hein. Et puis, finalement, si on veut éviter la gueule de bois et des accidents ou d'autres problèmes suite à une soirée alcoolisée, finalement, les solutions, elles sont simples. Soit on s'abstient complètement, mais c'est peut-être un peu dommage. Soit on boit modérément et puis on fait attention à 2-3 choses, par exemple, à manger un petit peu. Ou il y a aussi des choses auxquelles on pense pas, mais par exemple, on boit plus si on est debout qu'assis. Il y a des petits trucs comme ça qu'on peut suggérer à ceux qui organisent des apéros et notamment aussi offrir des boissons sans alcool qui peuvent être tout à fait attrayantes et et festive.
Alors on sait qu'il y a quand même un effet d'entraînement dans ces apéros de fin d'année. Celui ou celle qui se contente par exemple de boire des jus de fruits peut passer pour quelqu'un de coincé aux yeux de ses collègues. Ça existe quand même.
Alors oui, ça existe. C'est bon de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a une pression sociale pour les gens qui soit ne peuvent pas boire d'alcool ou décident de ne pas boire d'alcool. Et c'est effectivement assez difficile finalement d'assumer le fait de ne pas boire d'alcool. Alors peut-être pour pallier cette difficulté aussi, on peut proposer des cocktails qui peuvent être tout à fait attractifs. Nous avons d'ailleurs édité quelques recettes de cocktails qu'on peut obtenir facilement sur notre site internet.
Et ces cocktails, ils ressemblent aux cocktails avec alcool? On peut faire illusion jusqu'au bout?
Alors, dans les faits, certainement pas. Mais dans l'apparence, en tout cas, oui. Nous avons proposé aussi des décorations et c'est des boissons colorées au nom tout à fait évocateur.
Alors justement, on va en citer quelques-uns. Il y a éléphant rose, Dracula ou Tropic Jungle. On peut donner un exemple comme ça de recette assez facile, peut-être pour nos auditeurs.
Alors, une recette facile. Alors, je ne vais peut-être pas tout pouvoir donner dans le détail, mais par exemple, le Blue Lagoon est fait à partir de sirop d'orgeat. Ou bien, sinon, un mojito sans rhum, au ginger ou au tonic, par exemple.
Alors on le sait, le risque dans ces apéros, c'est de se retrouver avec la gueule de bois le lendemain et on est parfois obligé d'aller travailler quand même. Certains tentent toutes sortes de recettes de grand-mère pour s'en débarrasser. J'ai lu donc sur votre communiqué de presse, manger des cornichons, des harengs ou du jus d'artichaut. Finalement, c'est vraiment efficace ça?
Pas du tout. Pas non plus, par exemple, d'avaler un peu d'huile avant la fête. Il n'y a même pas boire du café, il n'y a aucun remède finalement à la gueule de bois, si ce n'est du repos et boire suffisamment de boissons sans alcool, car l'alcool, il faut le rappeler, déshydrate.
Et si on décide de boire quand même quelques verres, il faut faire attention. Si on prend le volant après, au bout de combien de verres, on n'est plus dans les normes?
Alors ça dépend, je ne peux pas donner un nombre de verres fixe puisque ça dépend de sa constitution, de son poids, de si on est un homme ou une femme. L'important, c'est de peut-être varier les boissons au cours de la soirée, ne pas se faire resservir avant d'avoir fini son verre pour savoir à peu près où on en est. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que la limite, c'est 0,5 pour 1000 au volant.
Merci beaucoup Corinne Kiboura d'être venue quelques minutes en direct dans ce journal, porte-parole de l'association Addiction Info Suisse. Et les recettes, on les trouve en ligne sur votre site internet addiction-info.ch. Merci, bon après-midi à vous.
À vous aussi, au revoir.
Et après les boissons sans alcool, les petits pains sans sucre, le boulanger Bernard Ebersold à Mora vient de remporter la médaille d'or au trophée suisse de la boulangerie pour son pain de lutin. Signe particulier, ce petit pain ne contient pas de sucre, mais des extraits d'une plante, la stevia, au pouvoir adoucissant et dont l'utilisation est accordée sous strictes conditions et moyennant finance. Pierre Berset l'a rencontré dans son magasin sous les arcades de Mora.
Oui, c'est une innovation, on peut même dire européenne, parce que c'est le premier produit dans la boulangerie avec le sucre de la plante stevia. Alors à la place de mettre le 300 grammes de sucre, vous mettez 1 gramme de ce sucre de la plante stevia et puis vous avez la même douceur pour ce produit.
C'est une petite boîte blanche qui fait quoi?
Alors là, c'est une boîte à 200 grammes. Avec ça, on peut faire 200 litres de pâte. Alors vous voyez, il faut très très peu. Ça, c'est environ la quantité qu'il faut pour 1 litre d'eau ou de lait pour faire une pâte. Le produit, il est très fort demandé. Aussi, les gens qui ont des diabètes, alors ils sont très contents parce qu'ils peuvent manger quelque chose de sucré. Et puis, les grands avantages, c'est ça qui est surtout intéressant. Si on garde aujourd'hui un peu la santé des gens, alors on mange trop de sucre, ça on sait. Alors, pourquoi pas aller dans cet sens-là? Parce qu'il n'y a pas de calories dans ce sucre. Il est naturel et surtout aussi, il n'y a pas de problème de carie. Mais il y a un seul problème, parce qu'il faut une autorisation.
Alors là, on en vient aux inconvénients, voire aux chicaneries administratives?
On pourrait presque un peu dire, parce que les études sont là, mais là, c'est toujours pas libéré. Alors, vous devrez bien expliquer le produit, il faut envoyer la recette, et puis pour chaque autorisation, il faut payer 300 francs. Chaque fois 300 francs, ça, nous trouvons un peu exagéré. Et puis nous, dans la production naturelle, alors les aliments, on n'ose pas marquer que c'est bon pour la santé. C'est quand même un petit peu fou.
Et ce petit pain du lutin sans sucre est quand même très sucré, d'après notre correspondant dans le canton de Fribourg, Pierre Berset, qui a eu le plaisir d'y goûter. 11 millions d'habitants bloqués par 11 cm de neige. La région parisienne est paralysée depuis hier en raison des intempéries. La préfecture de police de la capitale française a déconseillé ce matin à la population de prendre la route. Des milliers de personnes ont été bloquées toute la nuit dans les aéroports ou sur leur lieu de travail. Le reportage de notre correspondante à Paris, Charline Vonnenecker.
Peu de voitures circulent dans Paris ce matin. Avec la situation chaotique d'hier, beaucoup d'automobilistes ont dû abandonner leur véhicule. Même aux stations de taxi, certains chauffeurs ont laissé là leur voiture pour rentrer en métro.
Quand on est taxi aujourd'hui, c'est un peu la pagaille depuis hier?
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Le problème, c'est que les taxis, beaucoup habitent en banlieue. Et ils ne peuvent pas sortir de chez eux pour venir travailler. Et comme il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport, tout ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de demandes.
C'est très très difficile, madame. Ça sort de partout, les voitures, ils font n'importe quoi. Principalement, hier, il y avait trop de voitures. Aujourd'hui, il y a moins de voitures, ça va, ça roule. Mais hier, il y avait trop de voitures, impossible de rouler. Il faut mieux que les gens ils laissent leur voiture chez eux et ils prennent le moyen de transport. Le RER ou le métro, c'est mieux.
Les automobilistes coincés dans leur véhicule ont bondi quand ils ont entendu hier à la radio le ministre de l'Intérieur. Brice Hortefeux a dit que ce n'était pas la pagaille. Ce matin, il a dû rectifier le tir et justifier le peu de moyens face à une situation plutôt prévisible en hiver.
On a mobilisé de manière exceptionnelle 5000 policiers, gendarmes, des unités de la sécurité civile. J'ai pris la décision dès hier soir de débloquer deux hélicoptères au C-135 pour essayer de repérer s'il y avait des personnes qui étaient immobilisées dans certains véhicules. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit.
D'accord. Depuis ce matin, les témoignages se succèdent. Les habitants d'Île-de-France racontent qu'ils ont passé la nuit en hébergement d'urgence ou même dans leur voiture.
Et là, ce matin, moi, ce qui m'a scandalisé, c'est que je m'en suis sorti non pas grâce à la DDE, non pas grâce à la préfecture de police, uniquement parce qu'il y a une équipe de Moldaves qui ont décidé, de contre un petit peu de monnaie, de nous sortir de là, qui nous ont soulevé nos voitures quasiment pour les sortir des ornières dans lesquelles on était.
Charline Vanhoenacker, Radio Suisse Romande, Paris.
Conférence ce soir à 17h30 organisée par l'association Relève PME dans les locaux genevois de la Fédération des entreprises romandes, une association dont vous êtes le secrétaire général Giovanni Giunta. Bonjour.
Bonjour.
On va profiter de cette actualité pour faire un peu le point sur la transmission d'entreprises en Suisse romande. Un mot d'abord sur l'impact de la crise économique. Ça complique les choses?
Je dirais que ça retarde le processus de transmission. Nous avons fait une étude, nous avons mandaté l'Université de Saint-Gall et la Haute École de Gestion de Fribourg pour avoir un état de la situation, et il y a plus de 20 000 entreprises qui doivent être transmises dans les 5 prochaines années en Suisse romande. Et on sait que le 60% seront transmises et le 40% disparaîtront.
Ces entreprises, la crise, qu'est-ce que ça leur fait, on va dire? Les entreprises seraient achetées moins cher que si on n'était pas en temps de crise, par exemple, ou on trouve pas forcément de repreneurs?
Il y a les deux, en fait. Effectivement, si vous voulez, le vendeur, le cédant, va se baser sur le passé, alors que le repreneur va regarder l'avenir. Et quand on parle en période de crise, j'entends, on est plus à la baisse qu'à la hausse. Voilà.
Vous avez mené une grande étude sur le sujet l'an dernier. Mm-hmm. Un chiffre surprenant, près du quart des entrepreneurs de Suisse latine avouent n'avoir jamais pensé au règlement de leur succession. C'est inquiétant.
Tout à fait. D'où notre rôle d'organiser des événements. Donc à ce jour, nous avons organisé plus de 20 événements et il y a eu environ 3000 participants. Ça fait 150 participants par un événement pour les sensibiliser à préparer leur transmission.
Il faut réfléchir à la succession des entreprises longtemps à l'avance, Giovanni Giunta.
Idéalement, on conseille 4 à 5 ans. C'est-à-dire que d'une part, il faut déjà vouloir faire le pas. C'est pas évident. Quand on est à la tête, aux commandes d'une PME, c'est pas évident de se dire « je dois passer la main ». Ensuite, il faut trouver, disons, convaincre les partenaires, trouver le bon repreneur, trouver les bonnes modalités et aussi une solution arrangeante au niveau fiscal. Tout ça fait un cocktail d'environ de 4 à 5 ans avant de pouvoir passer aux actes.
Et on en parlait tout à l'heure avec cette initiative du PLR. Beaucoup de paperasse, je suppose, en cas de transmission comme ça d'entreprise.
Effectivement, c'est-à-dire qu'il faut signer des due diligence, mais pour ça, il y a des partenaires. Vous pouvez vous faire accompagner par des spécialistes, et on recommande que des spécialistes accompagnent, ça vous facilite le travail, et ça évite de devoir remplir toute cette paperasserie.
Alors, il y a plusieurs formes de succession, intra ou extra-familiale, on va dire, pour les principales. Transmettre l'entreprise à ses enfants, c'est la solution idéale ou pas forcément?
Alors, ça a été la solution idéale. Il y a 5 ans, il y avait 60% des entreprises qui étaient remises en main familiale, aux enfants. Et maintenant, la tendance est plutôt à la baisse. C'est-à-dire que les enfants n'ont plus envie ou n'ont pas forcément se sont dirigés ailleurs et n'ont pas forcément envie de reprendre les entreprises de leurs parents.
Et si un chef d'entreprise n'est pas en mesure donc de léguer sa société à ses enfants, il cherche en priorité un repreneur au sein de ses collaborateurs. Finalement, revendre à des tiers, c'est un peu la dernière solution.
C'est-à-dire que pour l'heure, il n'y avait pas d'outils non plus. Souvent, l'entreprise ne savait pas à qui s'adresser. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied, en partenariat avec KU Munex, donc en Suisse allemande et au Tessin Futuro PMI, une bourse électronique d'échange. nextmarket.ch, l'idée étant de donner plus de transparence dans ce marché pour permettre justement de retrouver des repreneurs.
L'étude que vous avez réalisée, elle montre aussi les raisons d'une succession d'entreprises. Giovanni et Giunta, on pense évidemment à l'âge de la retraite qui approche, aux soucis de santé. Mais il y a d'autres raisons plus surprenantes comme l'envie d'avoir plus de temps libre.
Et c'est vrai. Mais
travailler moins
c'est
pour louable. Profiter plus.
Je dirais, il faut se mettre dans la peau d'un entrepreneur. Il travaille pendant 30, 35 ans, 40 ans. Et il se dit, ça serait quand même temps que je passe, je veux dire, que je m'assure quand même une nouvelle vie et que j'assure aussi la pérennité de mon entreprise.
Vous êtes secrétaire général, on l'a dit, de l'association Relève PME. Comment est-ce que vous aidez, vous, concrètement, les entreprises?
Alors, Relève PME se veut une plateforme de sensibilisation à la transmission. Donc, nous avons des partenaires, les banques cantonales, les services de promotion économique, d'économie cantonale. Nous avons BDO, qui est le partenaire en termes de conseil fiduciaire, d'accompagnement en matière de succession au niveau suisse et international, et enfin au niveau de l'assurance immobilière. Donc tous ces partenaires, en fait, l'idée c'est de leur dire, vous avez ce problème qui va se présenter à vous un jour ou l'autre, prenez les devants, entourez-vous de spécialistes, de personnes compétentes et entreprenez la démarche aussi vite que possible.
Vous parliez à l'instant de la difficulté pour certains patrons de petites entreprises qu'ils ont parfois monté eux-mêmes à la sueur de leur front, de passer le relais comme ça. La meilleure solution, c'est quoi? C'est de la quitter d'un coup, pas de garder un pied dedans, puis de souffrir finalement, de voir comment les autres gèrent ce bébé, entre guillemets.
Mais je dirais, tout dépend. Les différentes expériences, parce que nous-mêmes dans les manifestations, on met l'accent sur le témoignage, hein, des expériences rencontrées. On remarque quand même que l'envie de celui qui vend, c'est quand même de partir. S'il veut rester, en principe, il va revenir aux commandes. Donc on a vu des cas d'artisans qui avaient cédé leur entreprise et un an après, comme ça allait mal, rachetaient l'entreprise, la remettaient sur pied et la revendaient encore après. Donc pour dire l'état d'esprit, et je crois qu'il faut rester, ce que j'ai remarqué, c'est que la formule gagnante, parce que chaque solution est différente, c'est que le cédant reste à la disposition du repreneur pour, si jamais le cas échéant, lui faire part de son expérience, l'aider, mais en appui et pas tout le temps présent.
Et comme ça, il se sent utile aussi, c'est important.
Et puis en plus, il a une expérience, donc ça aide également. Le fait d'avoir une expérience est toujours utile pour éviter de répéter les mêmes erreurs.
Et il y a un message aussi à adresser aux jeunes créateurs d'entreprises, ceux qui ont envie de se lancer, c'est qu'au lieu de créer leur propre société, il faudrait qu'ils s'intéressent un peu plus aux possibilités de reprise.
Vous avez tout à fait raison et c'est un problème important, disons un aspect important. Une entreprise nouvellement créée a 50% de chances de disparaître dans les 5 ans. Alors que quand vous reprenez une entreprise, elle a un taux de survie de 95% après 5 ans. Donc le jeune qui veut se lancer, il a intérêt plutôt à racheter une entreprise et à développer ensuite cette entreprise avec son projet en plus qui vient en plus. Ceci s'explique aisément par le fait que l'entreprise qui existe déjà, elle a un nom. Elle a des relations clients, des relations fournisseurs. Elle a du personnel compétent, alors que celui qui se lance, il doit tout construire. Et donc, il perdra beaucoup plus de temps. Une chance sur deux de rater ou de réussir.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ces précieuses informations, Giovanni Giunta. Vous êtes le secrétaire général de l'association Relève PME. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en hausse de 0,5% à 6544 points. Et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Pascal Bénard.
Le soleil continuera de faire de belles apparitions cet après-midi au-dessus des régions de plaine, mais de nombreux résidus nuageux traîneront à la montagne. Des giboulées ne sont pas exclus dans les préalpes. L'atmosphère s'est très nettement refroidie. Les températures à basse altitude plafonneront vers 3 degrés cet après-midi. La bise, même irrégulière, accentuera la sensation de fraîcheur dans le bassin lémanique. L'ambiance est venteuse dans la vallée du Rhône et un air glacial règne à la montagne. Il fera au mieux moins 11 degrés vers 2000 mètres où le vent de nord-ouest souffle souffle encore avec beaucoup d'énergie. Les conditions s'annoncent proches demain, avec davantage de soleil au sud qu'au nord de la Suisse romande. Des formations nuageuses continueront de s'accrocher aux Préalpes et donner quelques flocons de neige. Les températures en plaine évolueront des moins 5 à moins 1 degré de l'aube à des maxima à l'après-midi de 0 à 3 degrés. Ce temps plutôt ensoleillé, sec et frais se maintiendra tout au long du week-end.
La météo avec Crazy Prices, article de sport d'hiver en liquidation, crazyprices.ch.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Demain, nous recevrons Laurence Vinclair, co-directrice des Docks à Lausanne, qui fête leur 5e anniversaire. La salle de musique actuelle a été passablement malmenée depuis sa création, avec bagarres politiques autour des subventions, démissions au conseil de fondation et dettes abyssales. Nous ferons le point avec elle demain, il est 13h.